Vous écoutez, on lit pour vous.
Comment se protéger des fraudes toujours plus nombreuses et sophistiquées? Un texte de Clémence Pavic, paru le 15 mai 2026 dans Le Devoir. Toujours plus nombreuses et sophistiquées, les fraudes menacent nos données et notre portefeuille. Comment se protéger? Steve Waterhouse, expert en cybersécurité, propose quelques bonnes pratiques pour donner du fil à retordre aux fraudeurs. 1. Verrouiller son dossier de crédit. D'abord et avant tout, chacun devrait verrouiller son dossier de crédit, affirme Steve Waterhouse. Cela permet de vous protéger si vos données sont dérobées. Si votre dossier est verrouillé, un malfaiteur qui chercherait à contracter un prêt bancaire en utilisant vos informations se heurterait à un refus. Pour ce faire, il faut vous rendre sur le site web d'Equifax ou celui de TransUnion. Au Québec, on est la seule province où on peut le faire gratuitement, rappelle l'expert qui a lui-même bien failli se faire frauder. Il y a eu une tentative de demande de prêt non autorisée à mon dossier. Si je ne l'avais pas verrouillé, j'en aurais payé les frais, raconte-t-il. Par la suite, si vous souhaitez acheter une voiture ou financer des travaux, il vous suffira de déverrouiller temporairement votre dossier le temps que votre prêt soit autorisé. 2. Restez sur ses gardes. Une offre d'emploi non sollicitée, un texto pour un péage non payé, un collègue qui vous envoie un fichier par courriel sans cri égard, ou un proche qui vous demande de lui virer de l'argent pour une urgence. C'est un peu cliché, mais il faut toujours mettre en doute ce qui nous arrive. Toujours demeurer sceptique, indique M. Waterhouse. Un simple échantillon de voix et quelques photos peuvent suffire à un fraudeur pour usurper l'identité de n'importe qui. Raccrocher le téléphone, rappeler, essayer un autre canal de communication, faire quelques vérifications en ligne. Ce sont quelques mesures de précaution qui peuvent tout changer, souligne l'expert. 3. Des mots de passe incongrus. C'est une routine pénible, mais essentielle. Il est important de changer régulièrement ses mots de passe et d'en prévoir des robustes. Surtout, il faut avoir un mot de passe différent pour chacun de nos comptes pour éviter qu'ils soient tous compromis en même temps, plaide M. Waterhouse. Pour éviter de perdre le fil, on peut utiliser un gestionnaire de mots de passe. D'ailleurs, pour ce qui est du choix d'un mot de passe, l'expert suggère d'utiliser une phrase clé avec des mots séparés qui n'ont pas de rapport logique entre eux, pour qu'une intelligence artificielle malveillante ne puisse pas faire de corrélation. Par exemple, B majuscule 3 ST R majuscule Amen A commercial H majuscule Hochelaga. Point d'interrogation. La norme aujourd'hui pour un mot de passe, c'est qu'il fasse plus de 12 caractères et qu'il contienne des chiffres, des lettres, des minuscules, des majuscules et un caractère bizarre, rappelle M. Waterhouse. 4. Limiter son empreinte numérique. Autant que faire se peut, il faut limiter les informations que l'on partage en ligne. Tout du moins, il est préférable d'activer le mode privé pour restreindre l'accès à notre profil à nos amis uniquement. Autrement, un fraudeur pourrait fouiller nos réseaux sociaux afin d'en extraire des renseignements personnels et professionnels, puis s'en servir à mauvais escient. Steve Waterhouse invite aussi à faire un ménage dans le nombre de plateformes que l'on utilise et la quantité de comptes que l'on possède. Plus on s'étend sur différents nuages et différentes plateformes, plus on s'expose à un risque de vol de données. 5. Attention au code QR en public. Il ne faut pas seulement être prudent en ligne, il faut aussi l'être dans l'espace public, soutient M. Waterhouse, qui conseille d'être vigilant avec les codes QR, notamment. Depuis quelques années, on les retrouve partout, pour payer une place de stationnement ou lire un menu de restaurant, par exemple. Sauf qu'il y a des plaisantins qui mettent des faux codes QR à l'emplacement des vrais codes, et ça amène vers des sites qui n'ont aucun rapport, rapporte M. Waterhouse. Est-ce qu'il faut aussi se méfier de tout ce qu'on trouve dans l'espace public? La réponse est oui, selon l'expert. C'était Comment se protéger des fraudes toujours plus nombreuses et sophistiquées? Un texte de Clémence Pavic paru le 15 mai 2026 dans Le Devoir.
FAQ, SAQ, ça dans le but, un texte d'opinion d'Éric Blais paru le 19 mai 2026 dans la presse. Éric Blais est président de Headspace Marketing, une agence de communication marketing de Toronto. J'ai souvenir de magasiner dans une quincaillerie de Sainte-Adèle où, comme tout le monde, on demandait un washer ou un toggle bolt. Le propriétaire ne nous corrigeait pas. Il prenait plutôt plaisir à nous donner le mot français. Rondelle, boulon à ailette. Il ne faisait pas de la leçon. C'était plus subtil. Il nous transmettait l'idée qu'il existait toujours une façon de dire les choses en français. Cette scène me revient souvent lorsque j'observe la publicité québécoise, surtout pendant les séries éliminatoires du hockey. Depuis quelques semaines, les campagnes rivalisent de clins d'œil au langage populaire. On voit des « go abs go » pour un centre de conditionnement physique, des « SAQ, ça dans le but » pour la SAQ, des jeux de mots qui empruntent autant aux joies qu'aux expressions anglaises intégrées à notre quotidien. La controverse autour de « Go Abs Go » affichée sur les autobus de la STM me semble d'ailleurs avoir raté l'essentiel. Cette expression appartient au folklore québécois autant qu'au hockey lui-même. Même chose pour certaines expressions populaires utilisées en publicité. Quand Pepsi dit « Qui fait ferait ici? » la marque exploite un registre vivant et profondément ancré dans la culture québécoise. On reconnaît une proximité et une manière de dire que la marque vous parle dans votre langue. Le problème survient lorsque la facilité devient un réflexe. Il y a une différence entre utiliser le langage populaire avec intelligence et s'y abandonner par paresse créative. À force de multiplier les calques, les anglicismes ou les accroches jetables, on finit par appauvrir l'ambition du langage publicitaire lui-même. Et pourtant, certaines campagnes démontrent qu'un autre chemin existe. La récente campagne de la cage pendant les séries éliminatoires en est un bon exemple. Avec la broue dans le toupette, la marque ne se contente pas d'emprunter une expression colorée. Elle la met en scène, la fait vivre et la confronte à une réalité culturelle. Celle d'un hockey qui réunit un joueur québécois et un joueur français. Le langage populaire devient ici un terrain de jeu culturel, pas un raccourci publicitaire. C'est une nuance importante. Lexique du hockey. René Lecavalier le savait mieux que quiconque. Lorsqu'il a commencé à décrire le hockey à la télévision de Radio-Canada, le vocabulaire du sport était presque entièrement anglais. Puck, body check, power play. C'était la langue du jeu et personne ne songeait à la contester. M. Lecavalier ne l'a pas contesté non plus. Il a fait autre chose. Il a inventé des mots qui décrivaient mieux le jeu. Rondelle n'était pas une traduction de puck. C'était une image plus précise, rapide et visuelle. Mise en échec ne traduisait pas body check. Elle en révélait la mécanique. Pendant plus de 30 ans, avec une humilité remarquable, il a bâti un lexique complet qui est devenu le standard du journalisme sportif au Québec. Et il ne prétendait jamais éduquer qui que ce soit. Comme il le disait lui-même, les vedettes, c'était les joueurs. Lui n'était là que pour les mettre en valeur dans une langue correcte, si possible. Mettre des produits et services en valeur dans une langue correcte est exactement le réflexe qui manque parfois à la publicité québécoise d'aujourd'hui. Il y a près de 30 ans, j'ai travaillé sur le lancement publicitaire de Winners au Québec. Nous aurions pu choisir la voie évidente, c'est Winner. L'expression existait déjà dans le parler quotidien. Elle était facile, immédiate, presque automatique. Mais nous avons choisi autre chose. On gagne à y aller souvent. Cette phrase ne cherchait pas seulement à éviter l'anglais. Elle cherchait à mieux dire la promesse de la marque. Dans un environnement où les arrivages changent constamment, l'idée de revenir régulièrement n'était pas une astuce linguistique, mais une vérité commerciale. C'est peut-être là la vraie question. Non pas, peut-on le dire ainsi? Après tout, le Robert nous donne maintenant la permission d'utiliser « fac ». Mais est-ce la meilleure façon de le dire? Parce que le public québécois n'est pas seulement sensible à la connivence, il est sensible à l'effort. On reconnaît une bonne publicité lorsqu'on sent qu'elle a été travaillée et qu'elle résiste à la solution la plus simple. Cet effort finit par devenir un signal. Une marque qui soigne sa langue envoie aussi le message implicite qu'elle prend son public suffisamment au sérieux pour ne pas le servir au rabais. Au fond, il ne s'agit pas de défendre un français figé ni de censurer le langage populaire. Il s'agit de distinguer ce qui relève de la culture vivante et ce qui relève de la facilité. Entre « sac ça dans le but » et une idée mieux construite, la différence n'est pas linguistique, elle est créative. Et dans un monde saturé de messages, c'est souvent cette différence-là qui décide de ce qu'on retient ou pas. C'était « Fac, Saxon dans le but », un texte de Éric Blais paru le 19 mai 2026 dans la presse.
Temu Eshen gagne du terrain au Québec. Un texte d'Annabelle Caillou, paru le 20 mai 2026 dans Le Devoir. Les plateformes chinoises à bas prix Temu Eshen s'installent durablement dans les habitudes d'achat des Québécois, portées par l'inflation et les inquiétudes économiques. Une situation qui alarme le Conseil québécois du commerce de détail, qui dénonce une concurrence déloyale pour les commerces d'ici et presse une fois de plus Ottawa d'intervenir. Selon le plus récent baromètre du CQCD, obtenu par Le Devoir, 30 % des Québécois affirment avoir acheté sur Temu dans les 6 derniers mois, contre 21 % lorsque le CQCD a commencé à mesurer le phénomène en janvier 2025. Chaîne suit la même tendance. 19 % des répondants y ont commandé récemment, contre 16 % en janvier 2025. Le sondage, mené par Orama Marketing, a été réalisé en ligne du 2 au 10 avril 2026 auprès de plus de 1 000 adultes. Ces nouvelles données inquiètent le PDG du CQCD, Damien Siles. On n'est plus dans un phénomène marginal, un attrait de la nouveauté, note-t-il. Cette plateforme prend une place durable dans les habitudes d'achat. Temu, en particulier, creuse son avance. On y trouve vraiment de tout, ce qui rejoint un public beaucoup plus large que Shein, spécialisé dans la mode. Je ne serais pas étonné de voir Temu continuer de progresser, affirme-t-il. toujours plus d'achats. Non seulement la proportion d'utilisateurs augmente, mais la fréquence de leurs achats ainsi que le montant total dépensé sur ces sites sont aussi en nette progression. Environ 19 % des répondants disent acheter chaque semaine sur Temu et 22 % sur Shein, alors qu'ils n'étaient respectivement que 9 et 8 % en janvier 2025. Par ailleurs, 14 % affirment avoir dépensé plus de 500 $ sur Temu au cours des 12 derniers mois, contre 6 % en janvier dernier, moment où le CQCD a commencé à poser la question aux consommateurs. Pour Shein, la proportion de consommateurs y ayant dépensé plus de 500 $ est passée de 5 % à 11 % sur la même période. Cette popularité croissante s'inscrit dans un climat économique anxiogène. Près de la moitié, 48 % des répondants, appréhendent une détérioration de l'économie québécoise dans les 12 prochains mois et 57 % prévoient une récession d'ici la fin de l'année. Un ménage sur 5 craint une détérioration de ses finances personnelles à court terme. Pour Damien Siles, il n'y a aucun doute sur le lien entre ses préoccupations économiques et le succès des géants chinois du commerce en ligne. Les gens voient les prix augmenter partout. S'ils peuvent acheter moins cher, ils vont le faire. Et donc, ils se tournent vers ces plateformes, dit-il. Appel à l'action. Le PDG du CQCD s'inquiète des conséquences pour les commerces québécois. Comment une petite entreprise locale peut-elle rivaliser avec une industrie étrangère qui vend parfois 10 fois moins cher? À ses yeux, il s'agit de concurrence déloyale. Les détaillants d'ici doivent se plier à des normes strictes de fabrication, sécurité des travailleurs, réglementations environnementales, santé et sécurité des consommateurs, qui augmentent leurs coûts de production et de vente. Pendant ce temps, Shein et Temu attirent les consommateurs avec des produits à bas prix, fabriqués grâce à une main-d'œuvre bon marché en Chine et sans respecter les normes en vigueur au pays. Le CQCD réclame pour une énième fois une intervention fédérale pour imposer aux plateformes étrangères les mêmes exigences qu'aux détaillants locaux. Rien ne bouge depuis des mois. Il y a urgence d'agir, répète M. Siles. Contactés par Le Devoir pour réagir, les cabinets du ministre fédéral des Finances, François-Philippe Champagne, et de la ministre responsable du développement économique, Mélanie Joly, nous ont renvoyés vers Affaires mondiales Canada et Santé Canada. Ces derniers nous ont renvoyés vers le Bureau de la concurrence, qui nous a répondu que cette question ne relevait pas de son mandat. Il encourage toutefois quiconque qui croit détenir de l'information par rapport à une entreprise ou un individu s'étant livré à des pratiques anticoncurrentielles à utiliser son formulaire de plainte. C'était Temu et Shein gagnent du terrain au Québec, un texte d'Annabelle Caillou, paru le 20 mai 2026 dans Le Devoir.
Refaire de Montréal un garde-manger, un texte de Caroline Montpetit paru le 16 mai 2026 dans Le Devoir. Il vente et il gèle encore en ce début de mois de mai 2026. Mais à la ferme Les Bonnets Bleus, là où les chevaux couraient autrefois dans l'hippodrome de Blue Barnett à Montréal, Justine Sénéchal couve des yeux ses petits plants de melons de Montréal qui ont commencé à poindre à l'abri d'une serre. Ce fameux melon de Montréal, qui se vendait autrefois à prix d'or dans les restaurants de Boston et de New York, avait complètement disparu des mémoires jusqu'à ce qu'il réapparaisse récemment après beaucoup de recherches et d'expérimentations. Jusqu'au milieu du 20e siècle, il poussait précisément ici, dans les grandes terres de Côte-des-Neiges, qui couvraient ce qui est aujourd'hui l'autoroute d'Écarie. Des décennies plus tard, l'agriculture a finalement commencé à reprendre ses droits dans ce quartier de Côte-des-Neiges qu'on surnommait autrefois le garde-manger de Montréal. Depuis 4 ans, les Bonnets Bleus, qui relèvent de l'organisme Multicaf, la banque alimentaire de Côte-des-Neiges, y font pousser de quoi fournir les diverses activités des organismes communautaires de Côte-des-Neiges. Déjà dans le champ, des pousses de kale, de choux, d'épinards et de bêtacardes pointent leur nez vers le ciel malgré les bourrasques. Ce qui pousse ici est majoritairement distribué à travers nos marchés solidaires. L'été, on a des marchés qui se promènent pour atteindre des points de désert alimentaire ou des zones plus difficilement accessibles. On fait aussi de la distribution dans notre épicerie solidaire au sein de Multicaf, raconte Justine Sénéchal, chargée de projet en production agricole chez Multicaf. On ne cultive pas à l'année, mais sur 3 saisons. Ça serait un objectif, mais on n'a pas l'électricité sur le site. Pour produire sur 4 saisons, il faut une serre chauffée et ça coûte très cher. Gloire et disparition du melon. Capricieux et exigeant, le melon fait quant à lui plutôt l'objet d'un atelier communautaire qui réunit des citoyens du quartier Côte-des-Neiges. On y trouve, entre autres, des descendants des familles d'Écarie et Cardinal qui cultivaient autrefois le melon. L'un d'eux, Pierre Cardinal, fait même office de goûteur pour la ferme. Traditionnellement, le melon de Montréal dégageait, paraît-il, un parfum délicat et sa chair verte, juteuse et sucrée fondait dans la bouche. Dans son petit livre « Le melon de Montréal », son histoire, sa culture, le nutritionniste Bernard Vallée raconte en long et en large l'histoire de ce fruit, de sa gloire à sa disparition, puis à sa redécouverte dans des bibliothèques de semences. Pour tenter de retrouver la superbe initiale de ce fruit, des agriculteurs s'appliquent depuis un moment à sélectionner les semences des meilleurs spécimens. Cette histoire de melon disparu puis cultivé de nouveau est un symbole fort de l'histoire de l'agriculture sur l'île de Montréal, où les terres, parmi les plus fertiles du Québec, ont peu à peu cédé leur place au développement urbain. La terre de Montréal est très fertile. Et jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait encore énormément de fermes, raconte Éric Duchemin, directeur scientifique et formation au laboratoire sur l'agriculture urbaine de l'UQAM. Il faut comprendre qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, c'était très peu mécanisé. C'est après qu'on a transformé l'agriculture pour la rendre très productive, avec de gros tracteurs, par exemple. C'est vraiment à ce moment-là aussi qu'on a séparé le monde urbain du monde agricole. Et si Montréal est considérée encore aujourd'hui comme la capitale mondiale de l'agriculture urbaine, cette mouvance n'y a refait surface que dans les années 1970, à la faveur, entre autres, d'une crise du pétrole, mais aussi d'un incident qui a dévasté le centre-sud. À Montréal, il y a eu une crise économique, mais il y a aussi eu ce qu'on appelle le « week-end rouge », dit Éric Duchemin. Il y a eu des incendies qui se sont déclarés dans le centre-sud. Les pompiers étaient en grève et ne sont pas sortis des casernes. Il n'y avait pas de service essentiel à l'époque. Une bonne partie du quartier a passé au feu et la ville voulait trouver un moyen de rebâtir le quartier. Les citoyens ont dit « on veut nourrir les gens ». Et les premiers jardins communautaires ont vu le jour sur ces terres brûlées du centre-sud. Malgré le béton, la ville a tout de même gardé des traces de son histoire agricole. Éric Duchemin explique par exemple que le nom Côte-des-Neiges n'a rien à voir avec la neige, mais évoque plutôt les dos blancs des gens qui travaillaient dans les champs, qui étaient vêtus de chandails blancs. Aujourd'hui, moins de 5 % du territoire de l'île de Montréal est consacré à l'agriculture. Et en pleine crise du logement, la vocation de chaque maître de terrain vacant est hautement disputée. C'est donc largement sur les toits des immeubles que l'agriculture urbaine trouve aujourd'hui refuge. Le laboratoire sur l'agriculture urbaine de l'UQAM semait la semaine dernière sur le toit du Palais des Congrès et la ferme Les Bonnets Bleus investissait au même moment le toit de la bibliothèque de Côte-des-Neiges. Nourrir les communautés. Au-delà du volet expérimental de ces cultures, on vise aujourd'hui tout bonnement à nourrir des communautés. Ce qu'on voit beaucoup au Québec présentement, ce sont les fermes urbaines sociales, poursuit Éric Duchemin. Leur objectif, c'est de produire des aliments pour les personnes vulnérables. Souvent, dans les banques alimentaires, les légumes frais ne sont plus très frais, parce qu'ils viennent de loin. La meilleure façon d'avoir des légumes frais de qualité, c'est de les produire soi-même. Dans son petit livre « Cultiver la mémoire », la semencière Lynn Bellemare présente 17 végétaux ancestraux du Québec menacés de disparition. Certains sont vivaces et ont nourri des générations d'Autochtones et de Québécois. C'est le cas du chénopode blanc, par exemple, qui remplaçait la viande dans la soupe durant les années de vache maigre, ou de la patate en chapelet, que les Autochtones cueillaient à l'état sauvage au bord de l'eau et apprêtaient, cuits, séchés ou en farine. Selon Lynn Bellemare, il est important de conserver ces espèces pour assurer une certaine sécurité alimentaire. Si ces variétés-là disparaissent, on perd de la génétique, on perd notre capacité à avoir une sécurité alimentaire. Avoir notre sécurité de semences, c'est très important. Mon idée, ce n'est pas qu'on retourne aux années 1800, dit Lynn Bellemare, mais c'est qu'on puisse quand même avoir une certaine autonomie. Mais l'autonomie alimentaire, ça ne se fait pas tout seul, parce que l'humain est social. L'idée, c'est de le faire en communauté, de pouvoir dire, par exemple, « Toi, tu fais pousser des tomates », moi, je fais pousser des concombres. C'était Refaire de Montréal un garde-manger, un texte de Caroline Montpetit paru le 16 mai 2026 dans Le Devoir.